Vous écoutez RFI, il est 20h à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir. Diane Berger.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Paget.
Bonsoir Diane, bonsoir à toutes et à tous.
À la une de ce journal, l'Iran, Téhéran annonce la construction d'un nouveau site d'enrichissement de l'uranium.
Annonce faite juste après l'adoption par l'Agence internationale de l'énergie atomique d'une résolution contre Téhéran pour non-respect de ses obligations en matière nucléaire. Et alors que de nouveaux pourparlers sont prévus dans quelques jours avec les États-Unis, à suivre l'analyse de Pierre Olivier. Le dossier de ce 20h, ce sera l'accident d'avion peu après le décollage en Inde de cet avion d'Air India qui se rendait en Grande-Bretagne avec 242 personnes à son bord. L'appareil s'est écrasé sur une zone densément peuplée, nous dira Daniel Vallaud.
En France, une minute de silence dans les établissements scolaires de France pour l'assistante scolaire assassinée.
Oui, tué mardi à coups de couteau par un collégien de 14 ans qui a été ce jeudi mis en examen pour meurtre. Il risque 20 ans de prison. Et puis toujours en France, le gouvernement a dissous deux mouvements. Ce jeudi, la Jeune Garde, un mouvement antifasciste, et Lyon Populaire, un groupe d'ultra-droite. Pour le premier, cela passe mal auprès de la gauche, surtout du chef de LFI, Jean-Luc Mélenchon.
L'Iran va construire un nouveau site d'enrichissement de l'uranium.
Oui, et augmenter significativement sa production d'uranium enrichi. Annonce faite par Téhéran ce jeudi, juste après la décision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, d'adopter une résolution contre Téhéran pour non-respect de ses obligations en matière de nucléaire. Bref, regain de tension, alors que de nouveaux pourparlers sont prévus avec les États-Unis dimanche. Pierre-Olivier.
De l'avis même du ministre iranien des Affaires étrangères, cette résolution, adoptée ce jeudi, ajoute à la complexité des discussions avec Washington. Car dimanche prochain doit avoir lieu, sous la médiation du sultanat d'Oman, un sixième cycle d'échanges entre les États-Unis et l'Iran. Mais l'annonce de ce jour par Téhéran d'augmenter significativement sa production d'uranium enrichi est en totale opposition avec les exigences américaines. Pour justifier sa décision de lancer un nouveau centre d'enrichissement, l'Iran dit s'étonner que cette résolution n'ait été adoptée que par 19 pays sur 35. Reza Najafi est le représentant de l'Iran à l'AIEA.
Aujourd'hui, nous constatons que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a été complètement divisé et qu'une résolution à motivation politique soumise par Paris, Londres, Berlin et les États-Unis a été adoptée avec le vote le plus bas possible. Donc les auteurs de la résolution devront assumer les conséquences de la résolution qu'ils ont présentée lors de la réunion du Conseil des gouverneurs.
Jusqu'à présent, malgré tout, Américains et Iraniens ont confirmé leur présence dimanche à Oman.
Pierre-Olivier, on va se pencher maintenant, Christophe, sur ce terrible accident aérien qui a eu lieu ce jeudi en Inde.
Un Boeing de la compagnie Air India à destination de Londres s'est écrasé juste après son décollage de l'aéroport international d'Ahmedabad dans le nord-ouest du pays. À bord, il y avait 242 personnes et l'appareil s'est en plus écrasé sur une zone très densément peuplée. Daniel Vallaud, bonsoir.
Bonsoir.
Daniel Vallaud du service international de RFI, le bilan est encore provisoire mais il y aurait au moins 260 victimes.
Oui, alors selon les autorités, une personne à bord de l'appareil aurait survécu. Il s'agit d'un ressortissant britannique évacué sain et sauf dans un hôpital. Tous les autres passagers et membres d'équipage sont morts en s'écrasant sur un bâtiment situé non loin de l'aéroport. L'avion a fait plusieurs dizaines de victimes supplémentaires, d'où ce chiffre encore provisoire de plus de 260 morts. Les recherches se poursuivent à l'heure actuelle sur le site de la catastrophe. Et l'on pourrait donc découvrir encore dans les décombres de nombreuses victimes.
L'appareil avait décollé à 13h39 heure locale à destination de l'aéroport de Gatwick au Royaume-Uni.
Oui, juste après le décollage, pour une raison encore inconnue, l'équipage a lancé un message de détresse et sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on le voit perdre très vite de l'altitude avant de s'écraser. Très peu d'éléments pour le moment sur les causes de l'accident. Une certitude cependant, le pilote cherchait à reprendre de l'altitude sans y parvenir, ce qui ne lui laissait quasiment aucune chance. Écoutez l'analyse de Gérard Felser, ancien pilote de ligne, consultant en aéronautique et président d'Aviation Sans Frontières.
On ne pouvait pas avoir pire que ce qui s'est passé, c'est-à-dire un avion à charge maximum au décollage pour aller à Londres, plein de kérosène, donc il a pris feu instantanément, avec une altitude très basse qui l'empêchait d'aller planer pour se poser quelque part, comme l'avait fait l'Américain dans la baie d'Hudson. Donc le pauvre pilote ou les pauvres pilotes, ils n'avaient pas de choix. Maintenir l'avion en état de vol le plus longtemps possible, ça a duré quoi ? Une minute d'enfer, parce qu'ils pouvaient absolument rien faire, avec le train sorti d'ailleurs. Donc, il a eu le temps, malgré tout, de lancer un message de détresse, m'aider, pour avoir une priorité, pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Gérard Felser, parmi les passagers, se trouvait une majorité de ressortissants indiens, mais aussi une cinquantaine de Britanniques, 7 ressortissants portugais et un Canadien.
Oui, le nombre de victimes au sol qui pourrait encore augmenter dans les heures qui viennent. L'aéroport d'Ahmedabad est le 7e le plus fréquenté d'Inde et il est situé dans une zone urbaine, une zone résidentielle où se trouvent également de nombreux bureaux. Bilan donc encore provisoire, mais la catastrophe est d'ores et déjà l'une des plus meurtrières de ces dernières années. Bien entendu, il faudra attendre les éléments fournis par la boîte noire et l'enregistrement des conversations entre le pilote et la tour de contrôle pour tirer les premières conclusions. Mais en cas de responsabilité de Boeing, ce serait un coup très dur pour le constructeur américain, déjà en proie à de nombreuses difficultés ces dernières années. Ce serait d'autant plus dur que le Dreamliner est l'appareil phare de Boeing depuis son lancement au début des années 2010.
Merci Daniel Valo.
RFI, il est 11h06 à Los Angeles où on assiste à un relatif retour au calme que Donald Trump, le président américain, s'attribue.
Oui, si Los Angeles a été sûr et calme ces deux dernières nuits, affirme le président américain, c'est parce qu'il y a envoyé l'armée. Hier mercredi, plus de 1000 personnes ont encore protesté pacifiquement contre la politique migratoire du président américain avant une deuxième nuit de couvre-feu imposée par la mairie. Et d'autres manifestations ont eu lieu dans le reste du pays. La réponse de Donald Trump, déployer la garde nationale et les Marines, a été critiquée chez les libéraux et les progressistes. À Jessup, en Géorgie, où s'est rendu notre correspondant Édouard Maille, les Américains conservateurs soutiennent, eux, les mesures prises par Donald Trump avec quelques réserves.
Dans cette rue commerciale, en décharge les cartons d'un camion, l'ancien militaire salue la gestion de Donald Trump pour éviter à ses yeux que se répète le scénario des manifestations et émeutes du mouvement Black Lives Matter.
Dans le Minnesota, en 2020, ils n'ont pas contrôlé la situation. Des commerces ont été détruits, des personnes ont perdu la ville a été détruite. Ça aurait pu être évité.
Nora Wagamot, elle, qui se définit comme indépendante avec un léger penchant conservateur, ne sait pas quoi penser de la situation.
Je comprends que c'était peut-être nécessaire. Il faut éviter les pillages, les émeutes et les incendies. On a besoin que l'ordre soit respecté dans ce pays. Mais envoyer l'armée, ça fait beaucoup.
Lucien, lui, soutient les mesures prises par Donald Trump.
D'un côté, je pense qu'il gère la situation du mieux qu'il peut, mais je pense qu'il devrait y avoir d'autres façons de faire, car cela a entraîné plus d'émeutes dans le reste du pays.
Mais il estime qu'il ne faut pas arrêter les migrants qui n'ont pas commis d'infraction pénale et regrette des cas où cela s'est produit. Édouard Maille, Jésus, en Géorgie, RFI.
De son côté, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a rencontré ce jeudi un responsable américain en voyage dans la région. Son pays n'est pas d'accord, a-t-elle insisté, sur le fait de recourir à des descentes de police pour arrêter des gens qui travaillent honnêtement.
En Colombie, ce que l'on appelle les violences préélectorales, les violences avant les élections s'aggravent. 4 policiers sont morts hier dans des affrontements avec des partisans d'Evo Morales.
Les soutiens de l'ancien président bloquent des routes du pays depuis une dizaine de jours. Ils réclament la démission de l'actuel président Luis Arce, qui les accuse lui de tenter d'empêcher le scrutin présidentiel auquel leur champion Evo Morales n'a pas été autorisé à participer. Théo Conscience.
L'escalade de la violence continue entre les partisans d'Evo Morales et les forces de l'ordre. La police bolivienne a confirmé que 4 de ses agents ont trouvé la mort dans des heurts avec des manifestants mercredi. Le gouvernement avait ordonné une opération conjointe de l'armée et de la police pour déloger les soutiens d'Evo Morales qui bloquent plusieurs routes du pays depuis le 2 juin. Ils réclament la démission du président Luis Arce et l'accusent de vouloir écarter leur leader de la présidence du 17 août. La semaine dernière, le tribunal électoral a rejeté la candidature d'Evo Morales car le parti qu'il avait choisi n'a pas de statut légal et parce que l'ancien président a déjà atteint le nombre de mandats autorisés par la Constitution. Le gouvernement l'accuse de promouvoir des barrages routiers visant à empêcher le scrutin présidentiel. L'objectif des protestataires est d'encercler la passe pour la faire plier par la fin, selon le président Luis Arce. Le parquet a ouvert lundi une enquête contre Evo Morales pour terrorisme incitation à commettre des délits et atteinte à la sécurité des services publics.
Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, l'affirme, il ne savait rien.
Rien du dossier de corruption présumé qui a forcé le numéro 3 de son parti, le Parti Socialiste Espagnol, à démissionner ce jeudi. Pedro Sanchez a demandé pardon pour cette affaire, mais cette démission survient alors que les enquêtes judiciaires visant ses proches se multiplient ces derniers mois. Sa femme est visée par une enquête et son frère doit bientôt être jugé pour trafic d'influence.
À Gaza, la défense civile annonce 22 morts dans des bombardements israéliens.
Dont 16 tués alors qu'ils attendaient des distributions d'aide alimentaire. Ce jeudi, le Hamas qualifie la Fondation humanitaire de Gaza, fondation soutenue par les États-Unis et censée distribuer cette aide, de machines ignobles utilisées pour attirer des civils dans des pièges mortels. Israël, de son côté, accuse le Hamas d'instrumentaliser la souffrance à Gaza. Quant aux passagers du bateau humanitaire qui a tenté en début de semaine de rejoindre la bande de Gaza, 6 d'entre eux, dont l'eurodéputée française Rima Hassan, sont actuellement dans un avion en partance d'Israël. Information donnée sur X par le ministère des Affaires étrangères israélien qui traite au passage leur bateau humanitaire de yacht à selfie.
La France, où une plainte a été déposée mercredi pour complicité de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Tout cela contre la société Eurolinks.
L'entreprise marseillaise est soupçonnée de livrer des pièces de mitrailleuses à Israël. Et il y a une semaine, les dockers du port de Fos-sur-Mer, près de Marseille, ont bloqué 14 tonnes de matériel d'armement Eurolinks qui devait être embarqué dans un navire israélien direction Haïfa. Écoutez Emmanuel Daoud, c'est l'avocat de la Ligue des droits de l'homme qui soupçonne l'armée israélienne d'avoir utilisé les équipements Eurolinks pour tuer des civils en territoire palestinien.
La question que nous posons au travers de cette plainte avec constitution de partie civile déposée par la Ligue des droits de l'homme et dont est saisi dorénavant le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, comment se fait-il que Eurolinks ait pu bénéficier de licences d'exportation pour ses armements? Je rappelle que c'est une commission qui se réunit mensuellement. Et cette commission est composée de représentants du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur, sauf erreur de ma part, notamment. Et de notre point de vue, en application des règles du droit pénal, nous pouvons considérer à ce stade qu'il y a des éléments de vraisemblance que ces licences ont été données de façon illégale et infondée et ont permis la fourniture de ces matériels. Et pour moi, si tel était le cas, ces hauts fonctionnaires devraient être poursuivis également pour complicité de ces crimes, parce qu'ils ont donné les moyens pour que ces matériels puissent être exportés.
L'avocat Emmanuel Daoud joint par Amélie Beaucourt.
Une minute de silence ce jeudi à midi dans les établissements scolaires de France. Une minute de silence pour l'assistante scolaire assassinée.
Un temps de recueillement en hommage à cette jeune femme de 31 ans tuée mardi à coups de couteau par un collégien de 14 ans qui a été mis en examen pour meurtre. Il risque 20 ans de réclusion criminelle et non la perpétuité du fait de son statut de mineur. Toujours en France, dissolution de deux mouvements, la Jeune Garde, un mouvement antifasciste, et Lyon Populaire, un groupe d'ultra-droite. Dissolution prononcée en Conseil des ministres et annoncée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a promis de ne rien laisser passer, mais la dissolution du groupe antifasciste Jeune Garde ne passe pas à gauche. Surtout auprès de Jean-Luc Mélenchon, le chef de LFI accuse Bruno Retailleau de s'aligner sur l'extrême droite.
TikTok et son milliard d'utilisateurs dans le monde au centre d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale française.
Depuis 3 mois, les députés cherchent à comprendre les effets psychologiques de la plateforme chinoise sur les mineurs. Ce jeudi, les représentants du réseau social ont été longuement interrogés sur la modération des contenus et sur l'âge des utilisateurs, sans véritablement rassurer ni convaincre les parlementaires. Manon Hilaire.
Le jour où vous abandonnez l'égalité, on en discutera. Par contre, tant que vous allez nous parler d'égalité, nous faire chier avec ça, tu mets une gifle. Je relis.
Ces mots ne sont pas ceux du président de la commission, Arthur Delaporte, mais d'un célèbre TikToker masculiniste.
Est-ce que ce type de propos sont contraires aux règles de la plateforme? Est-ce que c'est acceptable ou pas?
On ne peut pas commenter là-dessus sans avoir vu vraiment la totalité de la vidéo.
Pas de commentaires de TikTok, dont ses représentants l'admettent. Les 500 modérateurs francophones sont loin de pouvoir tout filtrer. Difficile aussi de réguler les lives, des vidéos en direct, souvent addictives, où les abonnés peuvent envoyer des dons d'argent à la demande des influenceurs.
Est-ce que crier en continu le nom des donateurs, dire « allez la team », c'est un encouragement à la donation?
Écoutez, moi je considère pas qu'un remerciement est un encouragement à la donation, je considère que c'est de la politesse.
Une politesse qui rapporte, les 10 plus gros influenceurs de live gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois, reconnaît difficilement ce représentant de TikTok. et cet argent vient parfois de très jeunes usagers, la moitié des 11-12 ans a un compte avant le minimum requis de 13 ans. Le réseau social reconnaît des difficultés à contrôler l'âge de ses utilisateurs.
Manon Hiller, on termine ce journal avec l'appel du 18 juin, même si nous ne sommes que le 12. Diane, vous le savez, c'est par cet appel que le général de Gaulle, réfugié à Londres, a appelé sur les antennes de la BBC en 1940 à résister à l'Allemagne nazie. Eh bien, le manuscrit de ce fameux appel a été remis aujourd'hui par la famille de Gaulle aux Archives nationales lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans une maison d'enchères parisienne. Les deux feuilles recto verso, très raturées, seront exposées gratuitement à l'hôtel Soubise, toujours à Paris. Et ce sera évidemment à partir du 18 juin, c'est-à-dire mercredi prochain.
Merci beaucoup Christophe Paget pour ce grand journal du soir. Il est maintenant 20h15 à Paris.
RFI Soir, Diane Berger.
Dans quelques instants, nous nous pencherons sur la une du Point. L'hebdomadaire français consacre cette semaine un dossier aux tensions entre Elon Musk et Donald Trump. Le président américain et celui qui était jusque-là l'un de ses plus fidèles alliés se sont disputés sur les réseaux sociaux et dans les médias. On verra ensemble s'il y a de quoi faire vaciller le dirigeant des États-Unis. Et puis on vous emmènera à la mer à l'occasion du sommet des Nations Unies sur les océans. Reportage dans un phare de l'Atlantique en France menacé par l'érosion et par la montée des eaux. Mais d'abord, le journal des sports. Avec Cédric De Oliveira, bonsoir.
Bonsoir Diane.
En football, on est à J-3 du début du Mondial des clubs. Les joueurs du PSG sont en Californie pour préparer leur première rencontre.
Oui, les Parisiens joueront contre l'Atlético de Madrid. Ce sera au Rose Bowl de Pasadena, c'est dans la banlieue de Los Angeles. Et ce sera dimanche à 19h temps universel, en pleine journée donc, en Californie, sous une grosse chaleur. Les joueurs de Luis Enrique ont débuté leur préparation donc pour s'acclimater à ce nouveau contexte avec des entraînements donc à la mi-journée. Le début de la compétition aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche un match entre les Égyptiens d'Al Ahly et l'Inter Miami d'un certain Lionel Messi.
De son côté, Manchester City a encore un peu de temps pour rentrer dans la compétition. Ce sera mercredi. Le club anglais qui arrive aux États-Unis avec plusieurs renforts.
Oui, il y a eu beaucoup de transferts dans cette période. Le Néerlandais Tidjani Reinders, l'Algérien Ryan Aït-Nouri et le Français Ryan Cherki ont rejoint donc Manchester City ces derniers jours. Le Français qui a fini par s'engager avec le club pour une durée de 5 ans à 21 ans. C'est donc une nouvelle étape dans la carrière de l'ancien Lyonnais qui est très enthousiaste à l'idée de travailler avec Pep Guardiola, notamment l'entraîneur, il l'a dit, lors d'une interview diffusée sur le site internet du club.
I'm very excited for play to the Manchester City.
Je suis très excité de jouer pour Manchester City. C'est le plus grand club d'Europe. J'adore son style de jeu. C'est très important pour moi. C'est mon choix et je pense que c'est le meilleur choix de ma carrière parce que Manchester City, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Pep Guardiola est pour moi le meilleur coach du monde et je pense même que c'est le meilleur coach de l'histoire. Travailler pour lui et pour ce club, c'est un honneur. Je pense que je suis prêt pour évoluer dans le championnat anglais parce que j'ai toujours regardé les matchs de Premier League. Selon moi, c'est le meilleur championnat du monde et je suis impatient de jouer et d'évoluer dans ce stade avec mes coéquipiers.
Ryan Cherki et Manchester City qui débuteront leur mondial des clubs mercredi face aux Marocains du Wydad Casablanca.
Le club anglais qui sera aux États-Unis sans Kevin De Bruyne. Le Belge avait officialisé son départ il y a quelques semaines, mais il a déjà trouvé un nouveau point de chute.
Et le génial milieu de terrain va poursuivre sa carrière à Naples. C'est le champion d'Italie en titre qu'il a confirmé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. Après 10 ans à Manchester City, un palmarès impressionnant, notamment la Ligue des Champions remportée en 2023, King Kev, comme il était surnommé en Angleterre, va apporter à 33 ans toute son expérience au Napoli. La durée de son contrat n'a pas été révélée.
Et puis en basket maintenant, les finales de NBA se poursuivent entre Indiana et Oklahoma City.
Et c'est l'épilogue dans la prestigieuse Ligue nord-américaine de basketball. Et les Pacers d'Indiana ont pris l'avantage la nuit dernière en dominant le Thunder, le score 116 à 107, avec là encore un collectif qui a su répondre présent. 5 joueurs à plus de 10 points, dont le meneur Tyrese Haliburton, 22 points et 11 passes. Pascal Siakam a encore inscrit 21 points, lui qui est très régulier depuis le début des playoffs. L'intérieur camerounais qui souligne que tout le monde tire dans le même sens à Indiana et que cela explique sans doute sa réussite actuelle.
On a juste cherché à jouer notre jeu avec nos forces. Quel que soit le match, il sera difficile. Donc, qu'on soit mené ou qu'on soit devant, notre niveau d'intensité doit rester le même. On doit se battre, répondre à leurs défis physiques et espérons que même si le match est serré, on peut l'emporter. On a les gars pour ça. Et c'est pour ça que je suis là, pour apporter mon état d'esprit à l'équipe. Je ne me focalise pas sur le fait de marquer 20 points, non. Je veux juste continuer à faire ce qu'il faut pour gagner. Même si ça signifie qu'il faut défendre, courir, aller au rebond ou plonger sur le parquet. Et je pense que c'est pour ça qu'on est spéciaux. C'est qu'on a les gars pour faire ça.
Le Camerounais Pascal Siakam, après cette nouvelle victoire des Pacers, ce qui donne 2-1 pour Indiana, donc face à OKC dans cette finale. Il en faut 4 pour être sacré champion NBA. Prochain match entre les deux équipes, ce sera toujours à Indianapolis et ce sera dans la nuit de vendredi à samedi.
C'était Cédric De Oliveira pour le Journal des Sports. Il est 14h20 à Washington, aux États-Unis. Hier, l'homme le plus riche du monde a commencé à faire preuve d'un peu de contrition. Elon Musk a regretté être allé trop loin, je cite, dans sa dispute avec Donald Trump. Le président des États-Unis dit lui être reconnaissant des regrets de son ancien bras droit politique, un début de reprise du dialogue. Mais ce n'est pas non plus le retour du partenariat flamboyant que l'on avait vu ces derniers mois entre les deux milliardaires. Et tout cela, c'est à la une du journal Le Point. Cette semaine, on en parle avec la correspondante de l'hebdomadaire à Washington. Bonjour Claire Ménial.
Bonjour.
Vous êtes correspondante de l'hebdomadaire Le Point à Washington et vous signez cette semaine un dossier dédié au divorce entre Elon Musk et Donald Trump. On a beaucoup parlé ces derniers mois de ce qu'on appelle parfois la bromance de ce duo. Qu'est-ce qui explique ce divorce aussi brutal ?
Alors, ça dépend de si vous parlez de choses qui sont passées en public ou au sein de la Maison-Blanche, on va dire. Le dernier débat très public porte sur ce qu'on appelle la Big Beautiful Bill, ici au Capitole, la grande belle loi, qui est un projet de loi budgétaire monstrueux qui ajouterait 2400 milliards de dollars à la dette qui est déjà de plus de 30 000 milliards de dollars. Mais il y a eu des problèmes très tôt, en fait. Si vous parliez aux experts à Washington dès cet hiver, quand on leur parlait de ce projet d'Elon Musk de couper dans les dépenses par des mesures spectaculaires, ça les faisait rigoler. Washington, c'est un endroit très compliqué. Ils font construire des coalitions. C'est le gouvernement. On ne peut pas virer qui on veut et couper dans des dépenses de façon complètement unilatérale. Et c'est compliqué. C'est pas une entreprise privée. Et en fait, dès le mois de février, on a su que quand il avait envoyé, par exemple, des emails à tous les employés fédéraux en leur demandant de leur justifier 5 actions qu'ils avaient menées dans la semaine, on a su que plusieurs, les ministres, ce qu'on appelle les secrétaires de département ici, avaient ordonné à leurs employés de ne pas répondre. Il s'est brouillé avec les ministres très, très vite. Il y avait sa consommation de kétamine qui était très problématique pour Trump, sa façon de faire. Et puis donc cette brouille très publique finalement sur cette loi.
Oui, donc tout cela a mené à un divorce qui est quand même assez marquant dans la politique américaine actuelle. On a l'impression tout de même que Elon Musk représentait une alliance des républicains, notamment de la base MAGA, avec ce qu'on appelle les Tech Bros, un groupe plutôt jusque-là qu'on imaginait acquis aux démocrates. On a vu un ralliement de tout un certain nombre de figures de la tech américaine, de la Silicon Valley, se rapprocher de Trump dans le sillage d'Elon Musk. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un divorce aussi avec ces Tech Bros?
Alors, c'est pas très clair, tout simplement déjà parce que Trump s'est montré très favorable à la dérégulation de la crypto. Et donc, ça profite à beaucoup de tech bros. En général, les promesses de baisse d'impôts, ça leur plaît bien. Donc, c'est pas si clair. Par ailleurs, il leur reste J.D. Vance, le vice-président qui est au pouvoir, qui est à la fois très MAGA, Make America Great Again, on va dire la branche traditionnelle, très chrétienne, républicaine, très pro-Trump. Mais à la fois, poussé par Peter Thiel, il est aussi dans le camp des Tech Bros. Et Vance, pour l'instant, ménage les deux camps et il est encore très favorable à ces gens. Donc, ils ont toujours quelqu'un au pouvoir. Par ailleurs, ce que signale cette brouille, c'est aussi l'échec patent du Doge, ce qui était la démarche que Elon Musk était censé mener donc pour couper les dépenses, qui a été un échec, il faut bien le dire. Ça a beaucoup énervé Trump, d'ailleurs. Je crois que là, aujourd'hui, ils disent avoir économisé 180 milliards de dollars. La promesse de départ, c'était 2000 milliards, puis 1000 milliards. Là, aujourd'hui, c'est 180 milliards. Oui. Mais quand vous regardez sur leur site, il y a énormément d'erreurs comptables. Par exemple, ils disent avoir annulé des contrats à 8 milliards, qui sont en fait à 8 millions. c'est beaucoup de choses qui fonctionnent une seule fois. C'est pas des économies à long terme. En revanche, ça a durablement déstabilisé l'administration. Ils ont renvoyé quelque chose comme 60 à 70 000 employés fédéraux, plus 75 000 qui ont pris une offre de départ. Donc vous avez des tas de services fondamentaux qui fonctionnent plus, les approbations de médicaments, etc. Là, en ce moment, ils sont en train d'essayer de réembaucher des gens. Ça, c'est en train de coûter énormément d'argent. Donc tout ça signale un énorme problème politique.
Et une grande déstabilisation. Derrière, on sait aussi qu'Elon Musk a commencé à évoquer l'idée de peut-être créer un parti, de s'investir en politique, mais sans Donald Trump. Est-ce que ce milliardaire a un réel pouvoir de nuisance sur le président américain et sur le camp républicain ?
Non, il y a eu un sondage YouGov pendant la brouille qui a montré que 71% des républicains étaient du côté de Trump dans cette brouille et 6% du côté d'Elon Musk. Non, non, en fait,
la base est solide pour Trump.
Le leader de ce parti, il n'y a pas de doute là-dessus.
Même s'il crée un nouveau parti, il y a peu de chances qu'il vienne fissurer le bloc trumpiste, le bloc MAGA.
Non, il y a très peu de chances. Le risque qui peut se poser, c'est d'ailleurs ce qui pouvait inquiéter Trump, ce sont les midterms, donc les élections générales de mi-mandat qui ont lieu en novembre 2026. Qui pousserait-il ? Est-ce qu'il pourrait pousser des candidats contre Trump ? Mais en réalité, Elon Musk est quelqu'un qui est incapable de pas se vanter, de pas crâner de l'effet de son argent, etc. Et ça devient en soi un sujet. Et on a vu que lors d'une élection dans le Wisconsin, il y a quelques mois, où il a voulu pousser une juge conservatrice, c'est devenu un sujet, le fait qu'il ait versé autant d'argent dans cette élection, et elle a perdu. Donc, en réalité, c'est difficile de voir quel va être son effet à long terme, parce que parfois, lui-même se tire une balle dans le pied.
Merci beaucoup, Claire Ménial, correspondante du Point à Washington. On rappelle aussi votre livre pour les auditeurs et les auditrices qui voudraient en savoir plus, « La guerre des Amériques », c'est chez Plon. Merci beaucoup.
Merci.
Ce sera demain, vendredi, le dernier jour de la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, dans le sud-est de la France. Parmi les thèmes qui y sont abordés et que nous évoquons toute la semaine sur RFI, il y a l'érosion des côtes, amplifiée par la montée des eaux. 20% du littoral français est concerné, avec des dégâts déjà significatifs. Sur la façade atlantique, près de Royan, le phare de la Coubre est d'ores et déjà condamné. C'est un reportage de Baptiste Coulon.
Attention à la tête, ça serait bien un petit peu.
Gravir les 300 marches en colimaçon du phare de la Coubre, c'est le prix à payer pour profiter d'un panorama exceptionnel.
Après l'effort, le réconfort.
La vue est magnifique.
Alors effectivement, on a l'immensité de toutes parts, donc l'immensité de la côte sauvage. On voit effectivement les dessins des dunes qui vont dans tous les sens. Et après, évidemment, l'immensité de l'océan. Progressivement, il avance.
Il n'est plus qu'à 150 mètres du phare contre 2 km à la construction de l'édifice il y a un siècle. Damien Jousmet est le responsable du site.
Plus effectivement l'océan va se rapprocher, plus il y a un risque que par capillarité, l'eau puisse passer en dessous. Et ce phare-là n'est pas construit sur un éperon rocheux, on n'est que sur du sable. Donc effectivement, il y aurait un risque après à très long terme pour sa stabilité.
Aucune date n'est fixée, mais l'État va bel et bien déconstruire et non démolir le phare. Le détail a son importance pour cet édifice inscrit aux monuments historiques.
L'objectif, c'est vraiment de récupérer des éléments qu'il faut absolument garder, conserver, d'une part pour les valoriser, mais aussi pour les présenter aux générations qui ont connu le phare actuel et à ceux qui ne l'ont éventuellement pas connu, parce qu'on a vraiment des pépites du patrimoine. Il y a notamment la partie supérieure du phare avec le système de la lentille de Fresnel qu'il faut absolument présenter parce que c'est un bijou de technologie.
C'est la lumière en fait.
C'est la lumière tout à fait. C'est une invention qui date de plus de 200 ans qui permet encore à tous les phares du monde de fonctionner aujourd'hui.
Les équipes du phare préparent donc déjà son testament. Un musée par exemple pourrait accueillir certaines pièces.
Il y aura une partie plutôt mémorielle avec les éléments actuels du phare. Mais c'est peut-être aussi utiliser des nouvelles technologies pour justement pouvoir présenter des choses qu'on ne pourra plus voir dans de nombreuses années, notamment le panorama actuel. Il y aura un après-phare qui aura peut-être une forme complètement différente, mais qui sera aussi un symbole du territoire dont on sera très fier.
La disparition de cette silhouette rouge et blanche attriste les habitants.
Dans notre culture marine, ces bâtiments, ils ont quelque chose comme une âme. Ici, on aime nos phares et on aime la Coubre.
Raphaël Descamps, adepte de chant marin, lui a donc écrit une chanson. C'est sa façon à lui de participer à l'héritage du phare de la Coubre.
La musique, c'est aussi du patrimoine. Peut-être que cette chanson va faire partie du patrimoine immatériel du phare de la Coubre et que dans des années futures, on continuera à illustrer des reportages avec cette chanson.
Les souvenirs dans les murs gravés des générations qui l'ont tant aimé.
Un reportage à retrouver sur notre site www.rfi.fr, comme d'ailleurs tous nos reportages, toutes nos émissions, nos débats. Vous pouvez aussi les retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Et dans quelques instants, c'est Sophie Pouzrad qui prend le relais pour Afrique Soir.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Vidia Mistral, c'est le grand partenariat annoncé cette semaine lors de l'événement VivaTech à Paris. Un investissement en milliards de dollars du géant de l'IA américain. Quelles conséquences pour ce secteur stratégique? Quelles implications pour les Européens et pour le reste du monde?
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédigez une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.